pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une catastrophe silencieuse car invisible à l'œil nu et pourtant, en l'espace d'un siècle et demi, des ressources qu'on pensait inépuisables ont été poussées au bord de l'effondrement. Du bateau-usine à la pirogue, toutes les embarcations pêchent plus loin et plus profond des espèces réputées inaccessibles ou non consommables même. Le pillage est systématique et aveugle car il est particulièrement difficile de sélectionner les espèces capturées. À ce rythme, ce sont des maillons entiers de la chaîne alimentaire marine qui ont déjà été rayés de la liste du vivant, avec comme conséquence à terme une déstabilisation inquiétante de tout l'écosystème marin. J'aimerais vous dire que la mobilisation s'organise, mais pas du tout. Les mauvaises nouvelles s'accumulent.
C'est pas du vent sur RFI.
Légalisation de la pêche électrique en Europe, augmentation des quotas de pêche du thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique, pillage de la biodiversité des îles Marquises et persistance de la surpêche et de la pêche illégale au large de l'Afrique de l'Ouest. Bien voilà l'actualité. Pour en parler avec nous, deux invités. Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts et Frédéric Lemanac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique de l'association Bloom, fondée en 2005 pour défendre l'océan et ceux qui en vivent, on vient de l'entendre, c'est tout un programme. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter le constat que dresse Philippe Curie, directeur de recherche à l'IRD et co-auteur avec Yves Mézeray de Une mer sans poisson chez Calman Levy.
Les chiffres et les tendances lourdes sont au niveau mondial, sont là. Il y a beaucoup de stocks de poissons qui sont surexploités, 30%, et aujourd'hui, tous les stocks de poissons sont exploités au niveau mondial, c'est-à-dire vous allez dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle zone, dans n'importe quelle profondeur, on pêche et on pêche avec une grande intensité. Cette pêche est tellement intense, pourquoi ? Parce que, en réalité, notre appétit est grandissant pour les ressources marines. Et il y a un chiffre qui est absolument étonnant, et qui inquiète d'ailleurs les Nations Unies chaque année, tous les deux ans, quand le rapport de la FAO est produit, le rapport SOFIA, c'est le fait qu'en 50 ans, on est passé d'une consommation qui était de 5-6 kilos par tête d'habitant à plus de 20 kilos aujourd'hui. Donc il y a une tendance qui n'arrête pas de mettre une pression absolument fabuleuse sur les ressources marines. Donc c'est cet appétit qu'on a individuellement. Et bien sûr, en plus de ces 5 et 20 kilos, cette augmentation absolument phénoménale, vous avez aussi une augmentation de la population qui est passée de 3-4 milliards à 6 milliards aujourd'hui.
Voire 7 milliards et bientôt 10. Et bien voilà le décor planté. Messieurs, votre réaction, Yannick Jadot ?
On est dans un moment clé pour la biodiversité marine, à la fois, comme ça a été dit, les océans souvent sont considérés comme une ressource absolument inépuisable et un puits sans fond pour nos pollutions, nos sacs en plastique et nos produits chimiques. On réalise à quel point aujourd'hui les océans sont un régulateur extraordinaire et du climat, et évidemment de la biodiversité. Et on n'a toujours pas, dans toutes les législations nationales, pris la mesure de ce niveau de surpêche, de cette attaque très lourde sur la biodiversité. Il y a des combats, on va en parler, au niveau européen. L'Europe n'est pas le pire. L'Europe a évolué, même si elle garde une énorme flotte de pêche. Mais il y a des combats à mener sur des zones où c'est pratiquement la seule protéine animale. On pense par exemple à l'Afrique de l'Ouest, beaucoup. Dans d'autres régions d'Asie, du Pacifique, d'Amérique latine, où là, non seulement c'est une prédation extraordinaire sur la ressource, mais on tue tous les pêcheurs artisans, ont eu des modes de vie, ont eu des capacités à subvenir à ses besoins alimentaires. Et ça, c'est encore plus dramatique que l'ensemble de ce dont nous parlons.
Frédéric Lemanac, en guise d'introduction sur cette carte postale assez négative.
Ben c'est vrai qu'elle est assez négative et on voit que les tendances au niveau mondial sont très mauvaises. On a de plus en plus de stocks de poissons qui sont surexploités. On a des habitats marins qui sont détruits. On a la pollution, on a la bétonisation des côtes pour le tourisme. On a les espèces invasives qui sont transportées avec tous les transports maritimes, avec les cargos maritimes. Donc c'est vrai que la situation est très mauvaise dans l'océan. On voit aussi qu'il y a certaines sources d'optimisme. avec des aires marines protégées qui montrent que la situation peut s'améliorer. On voit d'autres espèces qui remontent un petit peu la pente, comme le thon rouge par exemple en ce moment en Méditerranée. Mais c'est vrai que les tendances sont assez lourdes, et donc on en parlera tout à l'heure, mais la pêche électrique, c'est typiquement une des solutions entre guillemets qu'on trouve pour toujours aller chercher le dernier poisson au fond de l'océan. On a plus possibilité de simplement remplir les filets avec des techniques normales.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui vous êtes appelés à vous mobiliser. L'association Bloom lance une pétition urgente contre la destruction programmée de l'océan. Le 21 novembre, la commission pêche du Parlement européen décidera si la pêche électrique peut être considérée ou non comme une méthode conventionnelle. Un vote favorable reviendrait à l'autoriser dans toute l'Europe.
Est-ce que le Schmilblick est-il conducteur du courant électrique ?
Eh bien oui, monsieur. Ce monstre des mers envoie des courants électriques pour déloger les poissons de leur petit nid douillet. Ce nouveau Frankenstein est une véritable machine de guerre. Elle ne fait aucune distinction entre les œufs, les bébés et les adultes. Ce fléau des temps modernes se nomme la pêche électrique. Une seule raison justifie son existence, le profit. Cela vous indigne ? Eh bien nous aussi. Mais vous avez le pouvoir d'agir. Citoyennes, citoyens, soutenez Bloom en signant la pétition contre la pêche électrique. Mettez au courant vos amis, branchez-les pour redonner de la couleur aux océans.
Frédéric Lemanac, l'association Bloom, c'est donc la vôtre, hein, qui avait fait ce petit film à la radio, on n'a que le son, mais c'est comme une vieille actualité des années 60. Alors on va tout d'abord rappeler ce qu'est la pêche électrique.
La pêche électrique, c'est une évolution d'une technique de pêche qu'on appelle le chalut, c'est-à-dire que c'est un filet qui est lesté au fond de l'océan pour capturer les poissons qui vivent dans le sédiment ou sur le sédiment, au fond de l'océan. Et donc la pêche électrique, les chaluts électriques ont des électrodes dans ces filets qui permettent de générer des courants électriques qui vont capturer le poisson et qui vont l'extraire vraiment comme une main invisible du sédiment.
Sympathique. Donc,
c'est extrêmement efficace d'un point de vue économique aussi, puisque les pêcheurs néerlandais, c'est vraiment une technique néerlandaise en Europe, les pêcheurs néerlandais montrent que que ça permet de diminuer de 50% la consommation de carburant, donc pour eux c'est formidable. Malheureusement, ces courants électriques, ils ont un impact sur les écosystèmes et donc sur les pêcheurs dramatique. Puisque les pêcheurs, qu'ils soient des Pays-Bas, de Belgique, de France ou de Royaume-Uni, nous disent que quand ils passent derrière une zone où la pêche électrique est active, il n'y a plus rien, c'est un désert, il n'y a même plus de verre dans le sédiment.
Alors Yannick Jadot, cette méthode est officiellement interdite depuis 1998. La Commission européenne accordait des dérogations depuis 2007. Et que s'est-il passé donc le 21 novembre ?
Le 21 novembre, la Commission de la pêche du Parlement européen, qui doit mettre en place, définir les mesures techniques de mise en place de la politique commune des pêches, qui est une politique européenne qui dit justement on ne doit pas pêcher au-delà de ce que peut produire la nature, donc c'est plutôt dans une bonne direction, a à la fois mal voté et bien voté. Cette commission a mal voté parce qu'elle a maintenu le statu quo qui offre déjà d'incroyables dérogations sur la pêche électrique. On est un peu, pour faire une image, dans la même situation que la chasse à la baleine. Ça fait des décennies que le Japon obtient des dérogations parce que la chasse est interdite, mais sur une pseudo-science d'études des cétacés. Et bien là, on est pareil. On dit qu'il va y avoir 5% des flottes qui pêchent ce type d'espèces qui vont pouvoir électrocuter le poisson. Hey, vas-y, que je te pousse. Et en même temps, on n'interdit pas, on laisse se développer une technologie qui est particulièrement destructrice. Mais la bonne nouvelle, y compris pour vos auditrices et vos auditeurs, qui ont envie, je n'en doute pas, de peser sur les décisions européennes, c'est qu'on a obtenu que ce débat allait devant la plénière du Parlement européen. Donc au début de l'année 2018, il va y avoir un vote du Parlement européen. Et il faut que chacune, chacun se mobilise, signe les pétitions, interpelle leurs députés européens ou leurs députées européennes, lui disent « Mais cette saloperie, on ne peut pas la laisser se développer. C'est pas possible qu'on détruise un peu plus les fonds marins, qu'on détruise les écosystèmes, qu'on aille pêcher le dernier poisson et qu'il n'y ait plus un seul pêcheur artisan. » Et donc il faut se mobiliser, il faut interpeller les députés, parce que c'est de la démocratie. À un moment donné, il y aura une majorité qui va soit valider la pêche électrique, ce sera une terrible faute, soit l'interdire et on aura empêché une autre technologie dévastatrice.
Mais signer les pétitions, ça sert, Frédéric Lemanac ?
Bien sûr, nous on l'a vu avec un combat antérieur de Bloom qui était contre la pêche profonde et on avait mis en place une pétition qui a récupéré plus de 900 000 signataires et c'est cette pétition-là qui a permis de mettre la pression sur la grande distribution notamment et sur les pêcheurs industriels et c'est grâce à cette pression commerciale que l'Europe a fini par interdire cette méthode de pêche. Donc une pétition, ça sert.
Juste, moi j'étais député européen, j'ai travaillé sur ce dossier de la pêche en eau profonde et je peux vous dire que ces combats-là, on ne les gagne que quand l'opinion publique est mobilisée. Vous savez, les écologistes au Parlement européen, c'est un groupe moyen, c'est pas un groupe majoritaire. Mais quand il y a l'opinion publique qui se mobilise, qui envoie des signaux, des interpellations, des messages aux députés, eh ben les députés, ils peuvent pas ignorer leurs électeurs et donc ils changent d'avis. Et sur la pêche en eau profonde, s'il n'y avait pas eu la mobilisation de Bloom, on serait encore en train d'exploser les fonds marins dans les eaux européennes au-delà de 800 mètres. Et ben maintenant, c'est interdit. Et ça, c'est l'excellent travail de mobilisation des associations, la mobilisation des citoyens et, je veux le croire, à un moment, des élus qui font leur boulot et qui mettent ça dans la loi.
R. F. I.
Non, c'est un tout barré.
Les bateaux espagnols et portugais pêchent beaucoup de thon et de requins. Ce qui les intéresse, ce sont les ailerons des requins. Mais après, ils jettent le reste. Ils pêchent avec des longues lignes de 1200 hameçons. Les poissons qui mordent, souvent les dorades et les barracudas, n'intéressent pas les grands bateaux. Quand vous mettez 1200 hameçons, vous ne savez pas quel poisson vous allez pêcher. C'est comme ça qu'ils épuisent les stocks.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est comme si nous étions incapables d'apprendre de nos erreurs. C'est pourtant ce que l'on enseigne aux enfants. Prenons par exemple le cas du thon rouge. Vous en parliez tout à l'heure, Frédéric Le Manac. Les ONG ont tiré le signal d'alarme suite à la surpêche de cette espèce dans les années 90-2000. Résultat, en 2007, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, la fameuse CICTA, a instauré des quotas de pêche draconiens. Mais le 22 novembre, décidément, cette semaine-là, il s'en est passé des choses. Eh bien, cette même commission a décidé de relever les quotas de pêche et pas qu'un peu, Frédéric Le Manac.
Eh bien oui, pas qu'un peu, puisque d'ici 2020, ils ont prévu d'augmenter les quotas de 52%, ce qui fait bondir même les pêcheurs industriels français, puisque bien sûr, quand on augmente les quotas, on diminue les prix de vente du poisson, donc eux, ils ne sont pas très contents de voir une augmentation si radicale.
Ce qui est rare et cher.
Ce qui est rare et cher, donc eux, ils sont plutôt contents d'avoir des quotas qu'ils ont bien sûr accaparés entre eux. Les pêcheurs industriels ont à peu près 95% du quota de thon rouge en Méditerranée, donc c'est plutôt une bonne affaire pour eux. Mais effectivement, ils veulent pas qu'il y ait non plus trop de quotas pour que les cours du marché diminuent. Donc, ce qui est dangereux aussi, c'est que les évaluations scientifiques ne sont pas absolument unanimes en disant « tout va bien pour le thon rouge, on peut y aller ». Elles disent que la situation semble s'améliorer, mais qu'il y a encore des incertitudes. Et là, on se retrouve dans une situation où l'augmentation du quota d'ici 2020 risque de mettre en péril, encore une fois, la population de thon rouge.
Donc, ce que je disais, Yannick Jadot, on n'apprend pas de nos erreurs.
C'est, je crois, Einstein qui disait que la bêtise, c'est quand on recommence la même erreur en pensant que cette fois-ci, on aura plus de chance. Effectivement, ça dit qu'il faut maintenir la mobilisation en permanence. Moi, j'étais à l'époque des grandes campagnes pour la protection du thon rouge. Je dirigeais les campagnes de Greenpeace. On avait emmené le Rainbow Warrior à Marseille. On se prenait des boulons plein la gueule par les thoniers seineurs parce qu'ils voulaient absolument pas toucher à ce business qui se joue en dizaines de millions d'euros. C'est un énorme business avec des implications de la mafia italienne. Enfin, c'est quand même là, on sort de la pêche telle qu'on peut avoir les images. C'est des bateaux qui sont payés cash, qui valent des millions et des millions, qui sont ultra perfectionnés. Et donc, par la mobilisation, on avait réussi à ce que la ressource soit davantage protégée. Et d'un seul coup, dès qu'il y a un signal qui est de dire peut-être il y a reconstitution des stocks, d'un seul coup, on réouvre les vannes de la pêche. C'est totalement absurde, sachant que c'est une pêche qui est destructrice de plusieurs niveaux. À la fois, on pêche le thon rouge, après on le met dans des fermes où le thon rouge est engraissé, et donc là, il faut des quantités industrielles de poissons pour engraisser le thon. C'est une pollution terrible du côté de Malte, de Chypre, de la Turquie, tout ça, parce que ce sont évidemment des élevages industriels dans la mer. Tout ça pour être vendu des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour un gros thon rouge au Japon pour faire des sushis. Donc là-dessus, il faut continuer la mobilisation pour protéger la Méditerranée. Et puis, c'est pas possible qu'on mange encore du thon rouge dans nos assiettes. Quand on sait le danger, franchement, il y a de très bons sushis qu'on peut se passer du thon rouge quand on mange un sushi.
C'est dur à dire, mais...
un sushi thon rouge. Sushi thon rouge, c'est fini.
Et alors pourtant, c'était un bel exemple, Frédéric de Manac, de collaboration là, entre les scientifiques, les ONG. Il y avait eu une écoute, il y avait eu une bonne concertation. C'était une réussite.
La concertation, elle avait été un petit peu forcée, hein, puisque les scientifiques avaient proposé des réductions de quotas et des quotas vraiment bien inférieurs à ce qui était acté chaque année par la commission thonnière. Pendant des années, ils n'ont jamais été écoutés. Et à un moment, on a vraiment frôlé la catastrophe avec le thon rouge, notamment grâce aux actions de Greenpeace et d'autres ONG qui ont tiré la sonnette d'alarme. Mais c'est vraiment parce qu'encore une fois, il y a eu une pression citoyenne et vraiment les médias qui ont mis sur le dessus de la table ce problème-là de gestion du thon rouge qu'il y a eu des impacts au niveau politique. S'il n'y avait pas eu de pression publique, il y aurait strictement rien eu. Donc la collaboration, elle est un peu forcée. Maintenant, les quotas proposés par les scientifiques sont respectés, sont suivis. Il y a des mesures de gestion, de contrôle de la pêche, mais ça se fait jamais comme ça, au bon vouloir des pêcheurs et des gestionnaires de la pêche. C'est toujours forcé par la pression publique.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas toujours réversibilité sur le poisson. On a toujours cette idée que, bon, ok, on va en pêcher beaucoup, mais si on arrête, ça va revenir. Vous savez, il y a ce fameux exemple de la morue au Canada. Ils se sont dit, on va pêcher la dernière morue. Il n'y avait plus de morue, ils ont arrêté. Et bien, la morue est parvenue. Donc, à un moment, il y a des espèces qui, localement, disparaissent ou peuvent disparaître du fait d'une prédation beaucoup plus forte. Donc, quand on parle de crise de biodiversité, il ne s'agit pas d'arrêter un peu et puis ça va revenir. Il y a souvent ce processus-là, mais on peut aussi rentrer dans des processus d'irréversibilité et d'un appauvrissement permanent de la ressource, donc des fonds marins, de tous les écosystèmes, de toute la chaîne alimentaire, de la capacité des océans à absorber le carbone et tout ça, et qui nous emmène sur une forme d'emballement de crise écologique qui est absolument dramatique.
Et c'est vrai qu'on voit là, malgré tout, que... on avait un bel exemple de réussite et on recommence et c'est un peu partout dans plein d'endroits. C'est-à-dire qu'on est encore dans des visions à court terme.
Ce sont des intérêts sur cette pêche-là. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous regardez les investissements immobiliers des thoniers-senneurs français sur la côte, vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et malheureusement trop souvent de la collusion avec des élus.
Oh bah, quand même.
Eh oui.
Donc Frédéric Le Manac, sur ce sujet, vous allez vous battre aussi ?
Sur le thon rouge, non. Pour le moment, on a déjà trop de sujets. On n'arrive pas à dormir ni le week-end ni pendant les vacances. Donc, on va éviter de prendre un autre sujet. Mais effectivement, pour revenir sur ce qui a été dit, on a du mal à apprendre de nos erreurs et on le voit sur la pêche électrique. Il faut savoir quand même que c'est une technique qui a été utilisée par la Chine dans les années 90. La Chine a fini par l'interdire en 2000 parce que les impacts environnementaux et sociaux étaient catastrophiques. Et on recommence. En se disant, c'est en Europe, on sait ce qu'on fait, on a appris du passé. Et c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a tous les pêcheurs de la mer du Nord qui n'utilisent pas l'électricité, qui sont en train de crever.
En pêchant toujours plus loin, toujours plus profond et à présent toujours plus petit, l'homme est en train de transformer les océans du globe en désert liquide. C'est vrai partout dans le monde et notamment au large des côtes ouest africaines. Restez avec nous, on en parle juste après. Le flash d'info, à tout de suite. Fish in the sea, a bird in a tree, in another MC
they could fuck a smoothie. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr. Abracadabra, Sims, Alabama, I drop gems. Born legacy, heresy, give me the gems. I fly higher drift, cloud filled skies with a slip. And he gets shy when he sniffs, she only come when it's stiff. And my dick game is a gift, and I can make your world shift. My composition when I glisten, play my position. From New York to the streets of LA, so niggas listen. I've always been a go hard nigga, a go getter. Went from selling grams to Instagram, Facebook and Twitter. Another day as I reflect on my life, future is bright. I've been blessed, 4 seeds and a wife, my guiding light. Into the world of this real nigga, for now I'm at peace. I suggest you proceed with caution and don't make me a beast. See, I'm no stranger to struggle, been through famine and feast. If you know what I know, you know it's time to increase. Fish in the sea, a bird in a tree, ain't another MC that could fuck with Smooth B. Fish in the sea, a bird in a tree, ain't another MC that could fuck with Smooth B.